La première, podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour à toutes et à tous. Si tu trempes un doigt dans la mer, tu touches le monde entier, dit le proverbe croate. Et je vous propose de plonger ce matin au bord de la mer Adriatique, en Croatie. Un pays à la silhouette étonnante en forme de croissant avec de nombreux voisins, la Slovénie, la Hongrie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Face à l'Italie, la Croatie compte plus d'un millier d'îles. L'archipel croate est un des plus importants de la Méditerranée. Et c'est là que nous jetons l'ancre aujourd'hui, grâce à notre cinquième ticket pour l'Europe. Un programme de la RTBF qui envoie des jeunes Belges de tous horizons découvrir des pays de l'Union et aux portes de celle-ci. Aujourd'hui, le Benjamin de l'opération, Robin Cherry. Bonjour Robin.
Bonjour Adrien Jovenot.
Jeune étudiant namurois de 16 ans.
C'est ça.
Qui vient de découvrir deux pays des Balkans.
J'ai eu la chance de découvrir deux pays, donc je suis le seul d'un ticket pour l'Europe qui a pu découvrir deux pays. La Croatie d'abord et puis la Serbie.
Donc tu es allé dans l'Union et en dehors.
Mmh.
Ouais. Tu viens de rentrer, tu as fait mon voyage ?
Oui, c'était top. J'ai pu découvrir de nouvelles cultures, une nouvelle région. Et c'est assez rare d'aller par là-bas parce qu'en vacances, on n'a pas trop l'idée d'aller dans les Balkans. On va plutôt dans le sud de la France ou peut-être en Espagne, sur la côte méditerranéenne. Et là, moi, j'étais vraiment dans les terres. J'ai pas eu la chance d'aller sur la côte adriatique. Je suis vraiment resté autour de Zagreb et plus vers la Serbie.
Je te propose d'écouter le petit message que Pierre Gallot, présentateur du Ticket pour l'Europe, t'a laissé à l'aéroport juste avant ton décollage vers la Croatie.
Salut Robin, tu t'apprêtes donc à t'envoler direction la Croatie. La Croatie est une république qui fait un peu moins de deux fois la taille de la Belgique et qui regorge de paysages magnifiques. Forêts, montagnes, îles, gorges, lacs, cascades, ils ont tout. Il y a 4 millions d'habitants là-bas et la seule langue officielle est le croate. Ces dernières années, la Croatie est devenue une destination touristique incontournable en Europe grâce à sa nature notamment, mais aussi grâce à ses villes historiques somptueuses comme la plus célèbre Dubrovnik, surnommée la perle de l'Adriatique. Les parlements autrichiens et hongrois et la Maison Blanche sont tous construits en pierre blanche de Croatie. Et il n'y a pas que ça qui vient de Croatie, apparemment, même si on n'en est pas sûr à 100%, le dalmatien viendrait de la région croate de Dalmatie, qui a donné son nom au toutou. Et puis, la méthode d'identification grâce aux empreintes digitales a été découverte par Juan Vucetic, qui est né sur l'île de Hvar, une île croate. Bon, c'était avant que la Croatie existe, mais ça compte quand même. La Croatie a proclamé son indépendance le 25 juin 1991 et est le tout dernier pays à avoir rejoint l'Union européenne le 1er juillet 2013. Voilà, c'était quelques infos en vrac sur la Croatie. N'oublie rien au moment d'embarquer et comme on dit là-bas, stretan put, ça veut dire bon voyage en croate.
Et puis à mon voyage, visiblement, il s'est bien passé. Et dans cette série, on appelle des Belges qui vivent dans les pays visités par nos jeunes reporters. Il a pile poil 20 ans de plus que toi. C'est le jeune écrivain Nicolas Hanau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Adrien, comment ça va ?
Ça va super bien. Vous êtes dans la capitale croate ?
Oui, exactement. J'habite à Zagreb depuis 6 ans déjà.
Alors, comme vous êtes à la fois écrivain, mais aussi vainqueur toute catégorie de l'émission Question pour un champion, gagné 18 fois, est-ce que les informations données par Pierre Gallot dans sa présentation étaient exactes ?
Oui, tout à fait. J'ajouterais que la Croatie a aussi rejoint la zone euro et la zone Schengen en 2023.
D'accord, ok. Merci pour l'info, mais on allait le dire plus tard.
Une précision qui est toujours bonne à prendre.
Oh,
oui, non, bien sûr, mais c'est juste que forcément, j'avais pas beaucoup de temps. On me disait toujours de raccourcir, donc il y a des éléments qui ont dû sauter.
Alors, vous êtes là depuis 5 ans, mais vous avez aussi passé 3 mois sur une petite île de la côte dalmate qui s'appelle Lošinj.
Oui, exactement. C'était au tout début du confinement, il y a 4 ans. J'étais parti pour le week-end dans l'île et puis le confinement est tombé. Donc, parti pour 3 jours, je suis revenu après 3 mois.
C'est là que vous avez écrit « Les vaches de Monsieur Burbure ».
Oui, exactement. Alors, un livre, ça s'écrit en plus de 3 mois, mais j'ai fait plusieurs séances d'écriture dans cette île, effectivement. Et oui, la Croatie a beaucoup inspiré ce premier roman et aussi les paysages et les gens que j'ai pu rencontrer dans le pays ont nourri ma narration.
Oui, un roman publié aux éditions du Sablon qui a été récompensé l'an dernier par le prix René Fallet. C'est un prix français qui récompense les premiers romans et vous êtes le 3e Belge à l'obtenir.
La première était une certaine...
Amélie Nothomb.
Amélie Nothomb.
Elle vous a d'ailleurs, je crois, écrit un petit mot pour vous féliciter.
Ah oui, tout à fait, j'ai eu cette chance. En fait, le prix René Fallet est le premier prix que Amélie Nothomb a reçu dans sa carrière d'écrivaine, qui a lancé sa carrière. Et donc, elle m'a écrit une très gentille lettre après que je l'ai moi-même reçue pour me féliciter et dire qu'elle avait beaucoup apprécié le roman.
Alors, je vous pose une question pour un champion, à la fois à vous, à Robin, à Pierre. Quel chanteur belge fait allusion en 2001 au chapeau d'Amélie Nothomb ? Alors, vous avez entendu la bouche... Oui, vous reconnaissez un peu ?
Ben, j'étais pas encore né, j'étais même pas en conception à ce moment-là.
Non, 2001, effectivement.
J'étais encore très jeune aussi, j'avais 8 ans en 2001.
Oui, peut-être du côté de Nicolas Hanot.
Oui, c'est Pierre Rapsat.
Oh,
on existe.
Voilà. On existe encore. Ouais, ça, c'est vraiment un champion. Hein. Alors là, franchement, 23 ans après, reconnaître cette chanson qui était vraiment sur un album, hein, c'est pas un titre qui est beaucoup passé en radio. On existe encore. Tiré de son album Dadzibao. Bravo. Ben, Robin, il était encore dans les choux. Et vous, Nicolas, à l'époque 2001, vous étiez étudiant, je crois, du côté de Froidchapelle.
Oui, j'étais encore au collège de Chimay à l'époque.
D'accord. Puis il y a eu Louvain-la-Neuve, je crois.
Exactement, j'ai fait mes études de romane là-bas.
Et puis vous êtes parti enseigner le français en Croatie. Jusqu'à l'année dernière, vous étiez lecteur de WBI, ça veut dire quoi ?
J'étais envoyé dans des universités à l'étranger pour y enseigner la langue française et la littérature belge.
Un super job. Au départ, vous étiez parti pour des vacances, je crois, parce que c'est déjà un pays que vous aimiez avant d'y être attaché professionnellement.
Oui, il y a très longtemps, quand j'étais étudiant, j'avais fait un voyage en Croatie. Je me souviens d'ailleurs que le jour de la proclamation de mes derniers résultats d'examen, en fait, j'étais pas à Louvain-la-Neuve, j'étais à Zagreb en voyage. Et j'imaginais pas y rester longtemps dans ma vie. Et en fait, c'est peut-être un coup du destin que je sois venu y enseigner le français quelques années plus tard.
Et avant de vivre à Zagreb, vous avez travaillé à Ljubljana.
En Slovénie, exactement. Aussi une très belle destination qui en fait est juste à côté de Zagreb. Donc on est à 150 km l'un de l'autre. Donc je vais souvent visiter une ville depuis l'autre.
Alors Robin, tu as quitté toi Bruxelles nationale, Zaventem, direction la Croatie. Où as-tu atterri ?
À Zagreb.
Justement. Et t'as pas vu Nicolas, il n'était pas là.
Non, j'ai cru le croiser, mais j'ai pas pu le voir, il était parti.
C'est parti, ok. Quel a été ton premier sentiment en débarquant là-bas ?
Alors déjà, il faut savoir que moi, je suis pas très fan de l'avion. Et j'ai eu une petite frayeur en débarquant sur le tarmac de Bruxelles National, c'est que l'avion, c'était un avion à hélice. Donc, première impression assez mauvaise, mais finalement ça s'est bien passé. On a atterri en douceur, avec beaucoup de bruit, mais en douceur.
Un petit avion comme dans Tintin, quoi.
Avec c'est
les...
ça.
Ouais. Ah, mais c'était déjà un sentiment d'aventure, alors.
Oui, exactement.
Très, très bien. Puis les premières rencontres, parce que tu as choisi de travailler sur des thématiques. Hein. Vous n'êtes pas là en vacances, vous avez des thèmes que vous devez développer.
Effectivement, pendant le casting, j'avais choisi plusieurs thèmes, donc environnement, énergie et politique. Et donc j'ai pu rencontrer, durant ce voyage, plusieurs personnes en relation avec ces thèmes. Donc j'ai surtout parlé d'environnement, de migration et d'élargissement de l'Union européenne. Mais là, c'était en Serbie, mais donc plus en Croatie. J'ai notamment pu rencontrer un journaliste qui avait déjà écrit plusieurs articles sur la migration en Croatie, donc à la frontière de l'Europe. On était à Slavonski Brod, donc la ville au bord de la Save, si c'est bien ça le nom du fleuve, hein, je me rappelle.
On va avoir confirmation avec Nicolas.
Oui, tout à fait.
Donc j'étais dans cette ville et alors il m'a un peu expliqué le contexte de la migration en Croatie et tout le flux auquel la Croatie fait face avec la Bosnie aussi.
C'est des régions et des thématiques que vous connaissez bien, hein, Nicolas.
Oui, tout à fait. Depuis 2015, la question de l'émigration est très présente dans la politique pas seulement de la Croatie, mais des Balkans en général. Et c'est vrai que ça a aussi beaucoup inspiré le roman que j'ai écrit, qui se passe à la frontière. C'est dans un pays imaginaire, donc je ne nomme pas un pays spécifique. Mais ça se passe aussi le long d'un fleuve. Donc ça fait aussi un peu écho à ce que Robin a vu à Slavonski Brod.
Vous parlez dans votre roman de Slavanie et de Kroémie, deux républiques voisines imaginaires.
Imaginaire, exactement. Évidemment, on comprendra les inspirations, mais c'est vrai que j'ai puisé mes inspirations pas uniquement dans les pays dans lesquels j'ai vécu, mais aussi un peu plus loin. J'ai aussi pensé à Hergé, bien sûr, qui a inventé ces pays des Balkans que sont la Bordurie et la Sildavie. Et c'est vrai que c'est un peu un hommage que de situer cette histoire dans des nouveaux pays.
Oui, le sceptre d'Ottokar, hein, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Nicolas, vous êtes né, d'ailleurs, ça ne s'invente pas, quelques jours avant la chute du mur de Berlin. Donc c'est vraiment un sujet qui vous poursuit depuis votre naissance. On en reparle après avoir écouté la musique des Balkans. C'était ici Damir Imamovic dans Les Belges du bout du monde.
Kad ja pođem, draga, iz Sarajeva grada, kad ja pođem, draga, iz Sarajeva grada, ti ne plači, draga, ne daj srcu jada, ti ne plači, draga, ne daj srcu jada.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
When I Leave My Dear, c'était Damir Imamovic sur la première avec Nicolas Hanau, écrivain, professeur et compétiteur, parce que vous êtes le recordman absolu de victoire dans l'émission Question pour un champion. 18 fois de suite entre le 12 septembre et le 6 octobre 2022. C'est exact, Nicolas ?
C'est tout à fait ça, oui.
Alors, nous avons fait une plongée dans nos archives avec ces questions sur les héros de la mythologie grecque. Et vous allez entendre à quelle vitesse Nicolas répond aux questions de Samuel.
Top, quel dieu de la vigne et du vin ? Tu as le monstre Alpos qui est dépourvu de 100 têtes. Dans la mythologie grecque, quel monstre à 9 têtes est tué par Héraclès dans les marais
de Lerne ?
Quel musicien originaire de Thrace sauve les Argonautes du chant fatal des sirènes ?
Orphée.
Quelle héroïne chasseresse réputée pour sa vitesse à la course perça de ses flèches les centaures Ilaeus et Héroé. Oh là là !
La question n'est pas terminée, que vous avez déjà les réponses, mais comment vous faites ? Vous êtes entraîné, Nicolas ?
Ah oui, je m'étais entraîné beaucoup avant l'enregistrement de l'émission. Mon objectif, c'était de gagner 5 émissions à la suite, parce qu'après les 5 émissions, on gagne la fameuse cagnotte du jeu. Et donc, je m'étais préparé et puis j'y suis allé plus loin que je pensais, puisque j'ai même décroché le record.
Oui, oui. 18 fois de suite. Tout ça depuis Zagreb, hein, en étudiant là-bas, en allant à Paris faire les enregistrements, avec un petit crochet par
Exactement.
Bruxelles. Alors, on évoquait la mythologie grecque avec ce questionnaire, et il y a un lien avec la Croatie.
Oui, tout à fait. Dans l'île de Lochine, qui me tient beaucoup à cœur, il y a une très belle statue de l'époque antique grecque qui s'appelle l'Apoxiomenos. Et cette statue, elle a un lien avec la Belgique parce que pendant 2000 ans, elle est restée dans le fond de la mer et elle a été découverte en 1996 par un plongeur belge qui, lors d'une de ses plongées au large de l'île, a découvert cette statue et puis l'a signalée aux autorités qui l'ont remontée hors de l'eau et qui l'ont restaurée, qu'on peut maintenant visiter dans un musée de Lochine. Et l'Apoxiomenos, en fait, c'est un thème de la statue antique grecque où on voit un sportif qui s'essuie après l'effort. Et c'est une très belle statue qui fait presque 2 mètres de haut qu'on peut visiter. Et dans cette exposition, on fait plusieurs fois référence à la Belgique parce que l'ambassade de Belgique a été aux côtés de la Croatie pour sauver cette statue.
Lochine, donc comment est-ce qu'on arrive là à Lochine ?
Alors, il y a une petite île en Croatie qui s'appelle Krk, K-R-K, sans voyelle, qu'on peut rejoindre en voiture, il y a un pont. Et puis de Krk, il faut ensuite prendre un petit ferry qui dure une demi-heure. Et là, on arrive à une autre île qui s'appelle Sres, qu'il faut traverser en voiture. Et puis, il y a un petit pont pour enfin arriver à l'île de Lochine. Donc, il y a 3 îles à traverser pour pouvoir y arriver. C'est une île derrière une île.
Ça se mérite, hein ?
Ça se mérite vraiment.
Ouais. Et je crois qu'avant vous, Sepúlveda avait déjà craqué pour l'île.
Tout à fait. Il était à Lochigne pour un tournage dans les années 80 d'un film qui ne s'est jamais fait. Il résidait dans une petite baie qui s'appelait la baie d'Artatore, qui était celle où j'habitais aussi. Et c'est là où il a commencé à écrire son fameux roman, Le vieux qui lisait des romans d'amour. Et donc, je suis très touché d'avoir un peu cette histoire commune dans l'écriture de mon roman avec lui, qu'on a commencé à l'écrire au même endroit.
Alors, à propos de film, est-ce que vous allez reconnaître cette musique ? Ah, je vois Robin qui opine du chef, qui a l'air confiant. On en profite encore un petit peu et puis il nous donnera sa réponse.
C'est Game of Thrones.
Ouais, bravo, bravo.
J'ai une petite anecdote par rapport à cette série. Il faut savoir que ma femme l'avait entamée et me disait « Regarde, c'est trop bien !» Et moi, je voulais pas la regarder parce que je suis pas trop film d'époque, de Moyen-Âge, etc. Et puis finalement, je me suis décidé à la rattraper, mais j'avais 4-5 saisons de retard et j'ai tout regardé d'affilée pendant des vacances scolaires. Et j'ai regardé, mon record, c'est 12 épisodes à la suite, sans pause, sans m'arrêter.
Ah, d'accord.
J'étais vraiment en état de mort cérébrale après.
C'est peu courant, mais c'est vrai qu'une fois qu'on accroche, on ne peut pas lâcher.
Ah oui, c'est vraiment prenant.
Petite séance de binge-watching.
C'était vraiment ça.
Tournée d'ailleurs, entre autres à Dubrovnik, je crois, Nicolas.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un tourisme spécifique Game of Thrones qui s'est développé à Dubrovnik pour les fans de la série qui veulent venir voir les lieux de tournage.
Alors Robin, chéri, 16 ans, plus jeune reporter de ce ticket pour l'Europe, il n'est pas allé sur la côte, il n'a pas été dans les endroits touristiques. Au contraire, vous êtes allé, Robin, dans la ville la plus polluée d'Europe.
Oui, aux particules fines. C'était pas la ville la plus jolie que j'ai vue de ma vie.
C'est où ?
C'est Slavonski Brod, donc c'est en Slavonie.
Ouais.
Donc c'est dans le côté est de la Croatie. C'est juste à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine, au bord de la Save, donc le fleuve dont on parlait tout à l'heure. Et donc dans cette ville, j'ai pu parler avec un activiste climatique qui n'en avait pas vraiment l'air parce que c'était un vieux monsieur.
Quand il dit vieux monsieur, c'est quel âge ?
Petite septantaine d'années.
Ah, d'accord, ça va.
On a vu la goutte de sueur sur le front d'Adrien.
Oui.
Et donc, il m'a un peu expliqué le contexte environnemental de cette ville. Et par exemple, il y avait des petites stations de mesure de la qualité de l'air qui ne servaient pas, quoi. Elles étaient là. Donc, les autorités locales avaient payé pour les installer, mais on ne pouvait pas lire les informations dessus parce qu'ils cachaient un peu le fait que ce soit une ville super polluée.
Ouais, ouais. Tu as pu survivre ? Tu as respiré ? Tu avais un masque ?
Non, il n'y avait pas de masque. Mais en tout cas, j'ai interrogé les gens dans la rue là-bas pour savoir s'ils connaissaient le problème de pollution qu'ils ont dans leur ville. Et peu de personnes ont trouvé la réponse directement. Peu de personnes ont dit pollution de l'air. La plupart étaient déjà dans le foot, dans l'industrie métallurgique, mais ce n'était pas du tout ça. Et c'est juste un étudiant, donc un jeune, qui a vite trouvé la pollution de l'air.
Mais parce que ta question, c'était en quoi votre ville est championne d'Europe, c'est ça.
Ouais. Et donc, juste un jeune a trouvé.
Ouais. Toi, comme beaucoup de jeunes de ta génération, tu te questionnes par rapport au climat, tu fais super attention à tes gestes. Tu te considères comme éco-anxieux ou tu crois qu'il y a des solutions ?
Non, moi j'ai toujours refusé ce terme d'éco-anxieux, moi je me considère comme un éco-optimiste. Donc, c'est-à-dire que moi je crois aux solutions, je pense vraiment qu'on va y arriver, l'humanité a fait face à de nombreux défis durant l'histoire. Et là c'est notre moment, c'est notre génération, avec l'aide des générations antérieures aussi. Et on va y arriver, et ça sert à rien d'être anxieux, ça sert à rien d'avoir peur, parce que c'est pas comme ça qu'on vainc les défis, qu'on avance dans la vie. Donc oui, je suis super optimiste par rapport à ça.
Un discours un peu à contre-courant de ce qu'on entend, ça fait du bien.
C'est vrai, et c'est vrai que finalement, quand on regarde pendant le confinement où tout s'est arrêté du jour au lendemain, on a vu qu'assez vite, ça avait tendance à s'inverser. Les animaux revenaient dans les zones qu'ils ne fréquentaient plus parce qu'il y avait trop d'activités humaines, etc.
Les gens allaient faire des courses dans les fermes, quitter les grands magasins.
Faisaient leur pain eux-mêmes, etc. Et on a vu que le niveau de pollution a quand même baissé par rapport aux autres années, les années de confinement. Puis après, c'est reparti en flèche, malheureusement. Mais c'est possible. Ça a bien démontré ça pendant le Covid.
Oui. Vous êtes allé dans cette région de Slavonie, Nicolas, Anno ?
Oui, plusieurs fois, dans plusieurs villes. D'ailleurs, J'ai peut-être une anecdote à propos de fleuves. Si on va plutôt vers l'est, c'est le Danube qui fait la frontière avec la Serbie. Et là-bas, j'étais tombé sur un drapeau européen face au fleuve qui était assez vieux, donc déchiré. Et mon éditeur m'a dit... ce drapeau, il serait super pour le bandeau de couverture du livre, pour la publication. Et donc, j'y suis retourné face à ce drapeau déchiré qui était juste le long du fleuve, qui symbolisait bien mon histoire. Et j'ai dû le prendre en photo, mais il était tellement haut que j'ai dû me garer en bas, monter sur le toit de ma voiture pour pouvoir être face à ce drapeau.
Merci pour le making-of, on avait les images. Et effectivement, moi j'ai le livre en main et on voit l'Europe, ouais. Ses jeunes et ses frontières, édition du Sablon, et puis ce drapeau européen déchiré. Il reste 4 étoiles seulement. Photo prise par Nicolas Hanot, auteur de ce livre « Les vaches de Monsieur Burmure ». Et si je retourne le livre, je vais sur la quatrième de couve et je vois un peu le pitch du livre. Dans une savanie imaginaire aux frontières de l'Union, un vieux paysan découvre son champ. Scindé en deux par un haut grillage de fer. La solution Lucas, président fraîchement élu, pour lutter contre l'immigration clandestine. Quand celui-ci décide en outre d'exploiter une faille juridique, la vie de la jeune Mira se trouve chamboulée. Jusqu'où l'Europe laissera-t-elle aller cette politique illibérale ? C'est un des récits de votre livre. Il y en a 3, je crois, Nicolas.
Oui, ce sont 3 histoires qui s'entrecroisent et qui finiront par se retrouver à la fin. C'est vrai que le monsieur Burbure en question est celui qui donne le titre à l'ouvrage, mais il y a d'autres personnages. D'ailleurs, ce monsieur Burbure a en fait vraiment existé. C'était un vieux ouvrier croate qui vivait sur l'île de Kirk et qui parlait un vieux dialecte qui s'appelait le dalmate. Et c'était le dernier à parler ce dialecte. Et quand il est mort, une langue est morte avec lui, ce qui est très rare de connaître le dernier locuteur d'une langue. Et ça m'a inspiré pour créer ce vieux personnage qui parle aussi en dialecte, mais je ne pouvais pas le faire parler en dialecte croate. Donc dans l'histoire, il parle en wallon.
Clin d'œil à vos racines, c'est pas mal ça. Les vaches de Monsieur Burbure, paru aux éditions du Sablon. Donc on voit vraiment que c'est une production belge. Merci pour ces anecdotes. Nicolas, on va vous retrouver avec Robin et Pierre après ces quelques messages. Ne quittez pas.
Les Belges du bout du monde.
9h-10h sur la première.
Avec Adrien Jouvenot.
Merci d'écouter les Belges du bout du monde en direct le dimanche matin à la radio depuis 36 ans. Ça fait 2 fois l'âge, même bien plus que l'âge de Robin qui est en studio avec nous. Ça me fout un coup ça. Robin, 16 ans, c'est la première fois que tu vas voter toi cette année.
C'est ça, c'est la première fois.
Ouais, et c'est un peu pour ça, Pierre Gallo, qu'il y a cette opération, un ticket pour l'Europe. C'est pour sensibiliser les jeunes, vous les envoyer aux 4 coins de l'Europe, ramener des reportages et enquêter sur des thématiques.
C'est tout à fait ça. Le but était de les impliquer, de les faire vivre des expériences à la rencontre d'autres Européens qui ont d'autres défis et des enjeux de société qui sont parfois différents des nôtres. Et donc, c'était permettre de leur ouvrir l'esprit et de voir quoi voter pour les prochaines élections européennes où les jeunes de 16 et 17 ans pourront voter. Et alors, pour ceux qui ont plus de 18 ans, parce qu'il y a aussi des majeurs dans l'émission, voir un peu ce qui se passe à l'étranger et voir du coup quelle direction prendre pour les élections ici chez nous. Parce que ça peut rayonner, tout ce qui arrive quelque part pourrait se retrouver chez nous et vice-versa. Et donc, c'est toujours bien de s'inspirer, de voir ce qui se fait ailleurs et de pouvoir faire les bons choix après quand on se retrouve aux urnes.
Le 9 juin, en Belgique, mais aussi à Zagreb. Vous irez voter, Nicolas Hanot ? Vous votez à Bruxelles ou à Zagreb ?
En Belgique, en général, j'essaye d'organiser un retour en Belgique pour voir ma famille au moment des élections.
Oui, parce qu'il y a aussi chez nous un scrutin fédéral, puis les communales au mois d'octobre. Nicolas, vous êtes l'auteur des Vaches de Monsieur Burbure. Est-ce que je peux vous demander de pitcher votre livre en 30 secondes ?
Donc, on se trouve à la frontière d'un pays imaginaire et on suit un vieux paysan qui un jour se réveille et découvre que son champ a été coupé en deux par le mur que le président a décidé d'ériger contre l'immigration. Et de l'autre côté du mur se trouvent ces 2 vaches. Et donc, on va suivre son parcours et sa lutte contre l'administration nationale et européenne pour récupérer ces 2 vaches.
Oui, c'est bien, c'est imagé. Et ça fait rire, Robin, parce qu'il est né à Ciné, où il y a le blanc-bleu, il y a le marché bovin tous les jeudis matins, où on achète une vache en se tapant dans les mains. C'est vrai, hein, Robin ?
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, une petite anecdote, c'est qu'au Moyen-Âge, Ciné a été détruit par la guerre de la vache.
Voilà, donc des tas d'anecdotes. Et vous faites parler d'ailleurs votre personnage wallon. Il y a des petites allusions à la Belgique aussi, Nicolas.
Oui, c'est ça. Le paysan en question devait parler un dialecte, mais je ne pouvais pas le faire parler en dialecte croate. Donc j'ai choisi le wallon, peut-être un wallon un peu fluide pour qu'il puisse être lu et compris par ceux qui ne parlent pas couramment wallon. Mais j'aime bien faire des petites références à la Belgique. Et d'ailleurs, les personnages, à un moment, passent par Bruxelles. Mais ça, je vous laisserai découvrir.
Ah, la suite dans ce livre de Nicolas Hanau, notre Belge du bout du monde à Zagreb. La Croatie, ben, on le comprend aussi dans votre livre. Et quand on écoute cette émission, le ticket pour l'Europe se trouve en bordure de l'Union européenne. Et la question de la frontière est omniprésente. C'est une des thématiques abordées par Robin lors de son voyage. Robin, tu es allé en Croatie, mais pas que. Écoutez le message que Pierre Gallo lui a livré alors qu'il était à la frontière.
Bon Robin, t'es un petit vénard toi, hein. T'es le seul participant d'un ticket pour l'Europe qui va dans deux pays différents. Tu vas même sortir de l'Union Européenne pour aller faire un tour en Serbie. Le pays est officiellement candidat à l'adhésion à l'Union Européenne depuis 2012. Ça fait donc 12 ans que ça stagne. Pourquoi ? Parce qu'en 12 ans, le pays n'a pas encore rempli tous les critères. Il ne s'est pas conformé aux normes européennes, la démocratie et la liberté de la presse là-bas inquiètent un peu, et puis le pays est assez proche de la Chine et de la Russie. D'ailleurs, le président serbe Aleksandar Vučić admire Vladimir Poutine. En plus de ça, les relations entre la Serbie et le Kosovo, qui avant faisaient partie d'un seul pays, la Yougoslavie, sont très tendues. Et une des conditions pour devenir membre de l'UE, c'était que leurs relations s'apaisent. Donc on n'y est pas encore. Le truc, c'est que l'adhésion de la Serbie à l'UE pourrait profiter à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on ferme pas non plus complètement la porte. Et d'ailleurs, d'autres pays de l'ex-Yougoslavie ont déjà rejoint l'UE. C'est le cas de la Croatie et de la Slovénie, par exemple. Mais la Serbie a-t-elle encore réellement envie d'entrer dans l'UE ? Que fait l'Union européenne pour que la Serbie respecte sa part du contrat ? Tu vas pouvoir discuter de tout ça aujourd'hui pour comprendre tous les enjeux. Allez, ciao.
Parce que Robin, tu es allé en Serbie. Tu as passé 24 heures sur place.
Effectivement, oui.
Ouais, tu es allé où ?
Donc j'ai pu découvrir deux villes, enfin une très brièvement, et la deuxième, donc la capitale Belgrade, j'ai pu un peu plus visiter le centre-ville. Et la première, c'était Novi Sad, donc proche de la Croatie. Et à Novi Sad, j'ai pu aller dans un centre pour jeunes, donc une sorte de maison de jeunesse, mais un peu plus poussée, dans laquelle ils organisaient des activités sur l'Union européenne et sur les valeurs de l'Union européenne auprès des jeunes. Et donc j'ai pu parler avec une représentante de l'association qui gère ce centre. Et donc elle était complètement pro-européenne, ça se voyait, elle était vraiment optimiste face à la perspective d'une Serbie dans l'Union européenne. Mais le lendemain, à Belgrade, j'ai pu rencontrer la deuxième face de la pièce, j'ai pu rencontrer un tout autre avis. Un avis moins pro-européen, mais plutôt proche de la Russie, justement, comme Pierre le rappelait pendant sa petite vidéo. Ça fait déjà depuis plus de 10 ans que la Serbie est candidate et ça ne bouge plus beaucoup. Et je pense que les Serbes en ont peut-être un peu marre et certains sont tournés vers la Russie et à cause de ce lassement.
Mmh. Vous-même, Nicolas Hanau, grand voyageur, j'imagine que quand on habite en Croatie, comme vous, on va de l'autre côté de la frontière, on va en Serbie.
Oui, souvent. Et je trouve ça très intéressant, le reportage qu'a fait Robin, parce qu'en général, quand on vient en Croatie, on prend des sujets faciles, on va sur l'Adriatique, on parle du tourisme. Et là, il s'est attaqué à des sujets politiques qui sont vraiment importants dans la région, les frontières, l'Union européenne, l'intégration des anciens pays de la Yougoslavie, dont la Serbie. C'est des sujets dont il faut parler. Et vraiment, je le félicite de s'être attaqué à ce gros morceau de gâteau.
Oui, et moi, je le félicite pour son élocution à 16 ans et la façon dont il s'exprime et dont il raconte son voyage. Chapeau, très bon casting, Pierre.
Alors, je n'ai pas participé au casting, mais effectivement, je transmettrai le mot à ceux qui s'en sont chargés. Et d'ailleurs, j'ai été surpris aussi par la vivacité d'esprit de Robin quand il a fallu deviner sa destination dans la voiture sur le chemin pour l'aéroport. Il a vraiment trouvé en quelques secondes, il était très très fort.
Alors, vous jouez vous aussi avec des étudiants. Vous avez été prof pour WBI, vous avez donné cours à l'université aussi. Et puis, une des activités belgo-croates que vous proposez, c'est un atelier dans les écoles. J'aimerais que vous nous parliez de la Belgique des cinq sens, Nicolas Hanau.
C'est un atelier que j'ai donné à travers toute la Croatie, dans les écoles de la maternelle jusqu'aux écoles d'adultes. Donc, c'est vraiment pour tous les âges. Et j'invite les élèves à découvrir notre pays, la Belgique, qu'ils ne connaissent pas très bien, en utilisant leurs cinq sens, le toucher, la vue. Et puis, on arrive au goût et on fait goûter du chocolat. Et là, tout le monde est content. Et c'est un atelier qui m'a permis à moi de bien découvrir le pays et je pense aussi à tous les participants de découvrir un peu plus la Belgique.
Oui, et je pense même que dans une école d'hôtellerie où vous avez donné cette animation, les étudiants vous ont reçu en vous cuisinant des frites.
Oui, c'était à Vukovar et c'était dans une école d'hôtellerie. J'ai eu la surprise à la fin de mon atelier de m'entendre dire, eh bien, c'est à votre tour de goûter et ils m'avaient préparé d'excellentes frites.
Oui. Vous continuez à donner ces ateliers, la Belgique des cinq sens, ou bien c'était juste une parenthèse ?
Je l'ai donné pour la dernière fois en septembre. Je ne l'ai plus fait depuis un certain temps, mais il n'est pas exclu que ça revienne. Donc, j'ai tout mon matériel avec moi. Et le plus dur est de faire parvenir les ingrédients depuis la Belgique quand je prépare l'atelier.
Oui. Dans un instant, après une musique typique de la Croatie, nous écouterons votre récit sur un voyage en moule à gaufre. On reste un peu en Belgique et dans les BD de Tintin. C'est à suivre sur la première dans les Belges du bout du monde.
Trouvez les photos et les vidéos des Belges du bout du monde sur nos pages Instagram, hashtag La Première et Adrien Jovenot.
Ah, je vais pas vous faire l'injure de vous demander, Nicolas Hanau, si vous avez reconnu ce morceau.
C'était Goran Bregovic.
Et la musique du film ?
Le Temps des Gitans.
Quel talent ! Vous devriez aller à Question pour un champion. Hein.
Mais j'y songe.
Vous l'avez gagné 18 fois de suite, tout en habitant à Zagreb. C'est complètement incroyable cette histoire. Chapeau, chapeau, chapeau. Et vous avez d'ailleurs commencé un livre sur les voyages faits grâce à cette émission.
Oui, j'ai gagné 18 séjours en France, ce qui au total représentait l'équivalent de tout un tour de France. Je suis allé de la Bretagne jusque dans les Alpes et puis dans l'Aveyron, sur la côte méditerranée, sur les canaux de France. Et donc, maintenant que tous ces voyages ont été effectués, je suis en train de préparer un livre pour raconter comment s'est passé mon tour de France avec Question pour un champion.
Ouais, c'est génial, c'est génial. Alors faisons un peu le tour maintenant de la Croatie avec vous. Il y a plein de régions différentes et je crois qu'il y a à chaque fois des identités locales assez fortes. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, quand on discute avec les Croates de leur identité, ils mentionnent assez rapidement leur identité régionale, que ce soit les habitants de l'Istrie, de la Dalmatie, de Zagreb, de la région du Nord, de la Slavonie. Chacun a, en plus de l'identité croate, son identité locale. Et ils aiment bien se charrier un peu d'une région à l'autre. Par exemple, la relation entre Zagreb, la capitale, et Split, la grande ville de Dalmatie, c'est un peu la même relation que Paris et Marseille en France.
D'accord. Et puis, il y a un peu des clichés aussi par rapport au nord et au sud. Mais là-bas, le pauvre, il vit dans le nord. C'est un peu le contraire de la Belgique.
Oui, le cliché, c'est le pauvre croate du Nord qui doit travailler sa terre pour survivre et le riche croate du Sud qui fait son argent grâce aux touristes pendant l'été et qui peut se la couler douce pendant le reste de l'année.
Est-ce que vous avez vu une évolution dans la Croatie depuis votre arrivée il y a 6 ans ?
Oui, quand je suis arrivé, la Croatie utilisait toujours la monnaie locale, la kuna. Elle n'était pas encore dans l'espace Schengen, ce qui veut dire que la traversée des frontières était, puisqu'on a beaucoup parlé de frontières, était plus difficile ou plus longue en tout cas. Et depuis 2023 et l'arrivée de l'euro et de la zone Schengen, l'Union européenne est devenue très concrète pour les citoyens croates parce que leur monnaie a changé et leur manière de se déplacer a changé aussi.
La Croatie, tu l'as parcourue, toi, Robin, de long en large, en voiture. Est-ce que tu as des anecdotes qui t'ont marqué, peut-être, dont on n'a pas encore parlé ?
sur le bord des routes, on a pu remarquer des centrales à électricité. Et ici, en Belgique, c'est plutôt soit de centrales nucléaires ou peut-être centrales à gaz. Tandis que là-bas, c'est des centrales au bois. Et donc, c'est de là d'où vient le problème de pollution de l'air à Slavonski Brod également. C'est qu'ils utilisent le bois pour se chauffer dans leur maison et aussi pour produire de l'électricité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que c'est vraiment pas courant ici. Parce que le bois, de nombreuses études, je le voyais encore il y a quelques jours, prouvent que le bois produit plus de particules fines pour 1 gigawatt d'énergie produite avec du charbon, plus de CO2, plus de méthane. Donc voilà.
Ouais, et puis c'est souvent du bois qui vient du Brésil, hein, qui a
c'est
dû voyager ici en cargo. Enfin, très grosse pollution, très grosse empreinte écologique pour cette biomasse. Tu as aussi rencontré un incubateur de start-up ?
C'est ça, oui. Donc, juste après être sorti de l'aéroport, je suis directement dirigé vers cette petite incubateur de start-up dans la banlieue de Zagreb. Donc, c'était un incubateur qui tournait autour d'une imprimante 3D, une imprimante 3D de très haute volée, car c'était une des seules de tous les Balkans. Et donc, l'émission était tournée autour de l'Union européenne. Et là, cet incubateur était financé par des fonds européens. Et donc, on voyait vraiment l'impact qu'avait l'Union européenne pour ces Croates qui ont pu développer leur petite start-up autour de cette imprimante et de toutes ces technologies. Donc, par exemple, j'ai pu visiter une petite entreprise qui s'occupait de la domotique, donc qui a conçu ses prototypes avec cette imprimante 3D pour faire les interrupteurs domotiques.
Ces sujets, c'est pas Robin, 16 ans, qui les a trouvés en débarquant juste une semaine sur place. J'imagine que vous l'avez un petit peu préparé, ce voyage, vous et toute votre équipe, Pierre.
Alors oui, moi, j'ai juste préparé les petites capsules pour accompagner Robin. Tout ce qui a été le choix éditorial, etc., ça a été fait par Nicolas Coussa, qui s'occupe de l'édito de l'émission. Et donc, c'est à lui qu'on peut lancer les fleurs d'avoir trouvé des sujets aussi originaux à traiter dans l'émission. Et donc... Bravo à lui et bravo aussi au reste de l'équipe. On peut citer Luca Vanek, qui est réal. On peut citer Christine Schwartz, qui est aussi productrice, je crois, sur cette émission, ou assistante de production. Ben, bref, ils ont travaillé d'arrache-pied pour monter cette émission assez rapidement, en réalité, parce que ça ne fait pas non plus des années et des années qu'on bosse là-dessus. Donc, tout ça s'est fait en plus ou moins 3 mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ça a été très rapide. Et le résultat est là. Et ça, vous pourrez le vérifier en regardant sur YouTube, sur Ovio, sur Tipeee ou sur TV5Monde. Il y a du choix.
Oui, une initiative de Medical Fat hein, aussi.
C'est ça, oui.
À qui on tire notre chapeau. On parlait de TV5Monde, la RTBF aussi. Vous pouvez la capter, Nicolas Hanau à Zagreb.
Oh, mais Ovio est le mot magique ici.
Donc, vous pouvez suivre vos programmes préférés là-bas. Je vous ai d'ailleurs entendu chez notre ami Walid l'autre jour. Donc, c'est bien. C'est une proximité internationale, on va dire. Est-ce que vous avez un livre de référence ou peut-être un livre à nous conseiller pour découvrir en s'amusant la Croatie, autre que les vaches de Monsieur Burbure, Nicolas ?
Bien sûr. Un livre de référence, peut-être Oui, je peux vous conseiller de lire un roman qui s'appelle « Le huitième envoyé » de Renato Baretić, qui suit l'histoire d'un politicien de Zagreb qui est envoyé dans une petite île de la Croatie pour réformer l'administration et qui est confronté à la réticence de la population insulaire. Et il s'arrache les cheveux pour essayer de faire entendre raison à ce groupe d'irréductibles dans son île. Et si on se rend en Croatie, souvent au bord de la mer, c'est un bon roman à prendre avec soi pour rire un peu.
Le huitième envoyé de Renato Baretić. Vous avez des loisirs quand vous ne lisez pas, quand vous ne donnez pas cours, quand vous ne faites pas vos animations sur la Belgique des cinq sens. Qu'est-ce que vous faites de beau, Nicolas, là-bas en Croatie ?
Mais je suis plongeur, j'ai déjà plongé un petit peu ou simplement fait du snorkeling, donc du palmastuba sur la côte croate. C'est vrai que j'aime bien partir explorer le pays et la région, donc parfois aussi vers la Bosnie, la Serbie. Et puis à Zagreb, j'ai un groupe d'amis francophones, on fait du squash de temps en temps, on s'amuse bien.
Oui, alors vous avez aussi un projet incroyable, le voyage en moule à gaufres, qui raconte votre périple jusqu'en Laponie, effectué avec un ami et un vrai moule à gaufres. Racontez-nous cette aventure.
Oui, c'est un voyage qui m'a emmené jusqu'au nord de la Norvège, au Cap Nord, donc le point le plus au nord du continent. Et pendant ce voyage, on avait notre moule à gaufres, hein, puisqu'on est deux vrais Belges, et on cuisinait des gaufres sur notre chemin en demandant l'hébergement, et ça nous a permis de progressivement escalader la Norvège jusqu'à arriver en Laponie, tout en répandant la bonne parole de la gaufre de Liège autour de nous.
Donc vous êtes du troc, vous offrez des gaufres que vous fabriquez devant les gens, et en échange, vous avez le logement ou l'hébergement.
Exactement, c'est un peu un « j'irai dormir chez vous avec mes gaufres
». Vous avez d'ailleurs dormi dans un phare au milieu de la mer, enfin, vous avez fait des trucs incroyables.
Oui, ce phare, c'était en Croatie, mais c'est vrai qu'en Norvège, on était deux, on s'est retrouvés hébergés dans un hôtel au milieu des montagnes gratuitement. On s'est retrouvés encore une fois dans une petite île au fond d'un fjord dans les îles Lofoten. On s'est retrouvés aussi dans une maison. Parfois, les gens ne sont pas là, mais nous disent « bon, je ne suis pas à la maison, mais prenez les clés, allez dormir chez moi ». C'est vrai que la confiance est totale et donc ça offrait un très grand dépaysement.
Oui, et pour pas un bal, vous voyagez comme ça, c'est chouette. Vous allez en faire un bouquin ?
Oui, il est terminé. Il devrait sortir à la rentrée d'ailleurs.
Ah, vous êtes un grand voyageur, hein, Nicolas, ça se sent. Je crois que vous avez une cinquantaine de pays au compteur.
Oui, 56, je pense.
D'accord. Vous avez cartonné sur les questions géographie à questions pour un champion. La preuve.
Avec quel pays, dont la capitale est Stockholm, la Finlande dispose-t-elle d'une... Par quelle mer intérieure de l'Atlantique du nord-est de la Finlande est-elle baignée au sud et à l'ouest ? Mer intérieure.
Baltique.
Quel est le golfe communiquant avec la Baltique par la mer d'Alande et baignant sur la côte ouest de la Finlande borde notamment le... Quelle ville, capitale de la province de Laponie, est souvent présentée par les organisations touristiques comme le village du Père Noël ?
Rovaniemi.
Il est trop fort, il est trop fort. Vous allez devoir attendre quelques mois, quelques années avant de retourner, ou bien maintenant vous ne pouvez plus vous présenter parce que vous avez tout explosé au niveau des gains.
Mais le samedi, ils ont des émissions spéciales qui s'appellent les Super Champions avec les anciens gagnants. Et je pense qu'ils vont bientôt m'inviter pour cette émission hebdomadaire.
D'accord, bah écoutez, on sera ravis de vous revoir. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission Les Belges du bout du monde, Nicolas Hanau. Merci aussi à Paul Michel qui réalisait cette émission mise en image par Léa Defour sur les réseaux sociaux des Belges du bout du monde. C'est une production de Françoise Pastel. Et puis je remercie Robin
qui
nous a raconté son voyage du haut de ses 16 ans et qui va aller voter pour la première fois le 9 juin. Merci infiniment, on te cède les clés de la maison et de l'avenir de cette planète. C'est entre tes mains et
merci beaucoup. Celle
de
j'en ferai bon usage.
Tes camarades, que ça repose. Pierre, on peut être fier de lui. Hein.
Très fier, oui, franchement, il était super pendant tout le voyage, des échos que j'ai entendus puisque moi je suis resté en Belgique. Mais franchement, très bon casting, comme tu le disais tout à l'heure.
Chapeau, chapeau. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre ticket pour la Grèce cette fois-ci. Ce sera le prochain numéro des Belges du bout du monde. Dans un instant, sur la première, rendez-vous au tournant avec Arnaud Reusen.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde. Podcast.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.